Oui, bonjour. Alors, je vais vous enregistrer ici. C'est Youssef Papron qui vous parle. Le résumé du cours d'hier soir, n'est-ce pas, sur l'humilité, les divers aspects de l'humilité. Alors, nous avons vu que l'on est parti d'un verset de la Torah, Ve'ahish Moshe Anav Me'od, je traduis immédiatement, l'homme Moshe était très humble. Mikol à Adam, Asher Alpenea Adama, par rapport à tout homme qui était sur la surface de la terre. Alors, nos sages disent, comment faisait-il encore pour rester humble après tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Les miracles en Égypte, le passage de la mer Rouge, le don de la Torah, la manne, etc. Ce qui prouve chez eux un certain réalisme. On n'idéalise personne, tout homme peut déraper. Quand on est très haut, on peut tomber même si on est Moshe, même si on est Moïse. Et d'ailleurs, la Torah elle-même n'a pas idéalisé Moïse, puisqu'elle nous parle des fautes qu'il a faites, et l'une d'entre elles lui a coûté d'ailleurs de ne pas entrer dans la terre d'Israël, c'est la Torah qui nous le dit. Alors, on dit voilà, Moshe était très humble, ça veut dire il se disait, j'ai des dons qui sont des dons naturels, et donc je n'ai pas à m'enorgueillir de ça. Et par rapport à tout homme sur la terre, ça veut dire que par rapport à tout homme qui était en face de lui, il était capable de se dire, peut-être cet homme, s'il avait été à ma place, il aurait développé ses dons davantage. Et donc, quelque part, Moshe jugeait les gens de manière englobante. Parce qu'on peut ne pas mépriser les gens, on peut faire très attention à ça, même si on sait qu'ils ne sont pas allés très très loin sur l'échelle sociale. On garde en soi ses succès, on ne toise pas les gens, on est courtois avec eux, on est gentil, etc. Mais au fond, on pense, bon, celui-là, c'est quand même un peu un nul. On le pense parfois peut-être inconsciemment, on porte sur lui inconsciemment son regard. Et Moshe, même pas ça. Parce qu'il se disait, mais cet homme-là, s'il avait eu mes dons, peut-être qu'il les aurait développés davantage. C'est-à-dire qu'il jugeait les gens de manière très englobante et pas sur un détail. Il voyait pas là où est le bonhomme en face de lui maintenant. Il se disait, il faut tenir compte de son contexte, de ce qu'il n'a pas eu comme chance et que moi j'ai eu, et peut-être il serait allé plus haut que moi, plus loin que moi. Voilà, donc ça c'est très important, tenir compte du contexte. C'est pour ça que la Torah nous dit, enfin nos sages nous disent dans Pirkei Avot, ne juge pas un homme tant que tu n'es pas à sa place. Et parmi les lois qui incombent à toute l'humanité, il y a le fait de ne pas consommer une patte, par exemple, d'un animal vivant. Tu veux du pied de veau, abats d'abord le veau avant de prendre la patte, et pas le contraire. Et au sens symbolique, ça veut dire n'isole pas un détail d'un caractère par rapport à tout le reste. Oui, c'est ce que les psychologues appellent d'ailleurs une mutilation. Un élève qui se tait tout le temps en cours et le prof qui lui balance, vous vous taisez tout le temps. Mais tu ne sais pas pourquoi il se tait, tu ne sais pas s'il est timide, tu ne connais rien, ni son éducation, ni rien. Donc c'est prendre un détail et lui jeter au visage sans tenir compte de tout le contexte, c'est une forme de mutilation. C'est le sens symbolique de ne pas prendre le membre d'un animal vivant pour le manger, mais d'attendre d'avoir abattu l'animal. Et donc, à partir de là, n'est-ce pas, on voit une chose, que Moshe avait tout le temps un calcul en lui qu'il s'imposait pour plaquer en quelque sorte son orgueil, le mettre au plancher, comme un joueur de rugby qu'on plaque au sol quand il va marquer l'essai. Mais la question rebondit, il était aussi prophète. Or, la prophétie, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui tombe du ciel, bien sûr, mais on ne peut pas se dire, on n'a pas la deuxième béquille de se dire. Non seulement, n'est-ce pas, c'est un don du ciel, mais en plus un autre l'aurait peut-être développé plus que moi. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on développe tel qu'on la reçoit, on la reçoit, la prophétie. Alors comment Moshe pouvait être humble, la question rebondit, en étant prophète, alors qu'il n'avait pas la ressource de se dire, cet homme-là l'aurait développé plus que moi. Eh bien la réponse, c'est que c'est une autre humilité, c'est l'humilité dont on parle à propos de Dieu lui-même quand on dit que là où Dieu est grand, il est humble. Alors Dieu, il n'est pas humble par calcul, il n'est pas en train de se raisonner en disant un autre aurait fait mieux que moi, c'est ridicule. Dieu est humble par essence, c'est-à-dire que Dieu, il n'a pas l'ego. Et Moshe, il était humble par essence, et ça lui permettait, même en étant prophète, de rester humble, c'est-à-dire il n'avait pas d'ego. C'est quoi ne pas avoir d'ego? Nous, ça nous est donné parfois comme un cadeau. Sacha Guitry disait, ce qui est beau dans la musique de Mozart, c'est que le silence qui la suit est aussi du Mozart. Il y a des paysages parfois, la mer, la montagne, on se tait. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, je pense qu'on est en symbiose avec l'infini, avec le créateur de ces paysages qui ne doivent rien à l'homme, qui ne sont pas bâtis. Et le silence qu'on éprouve, n'est-ce pas, cette sérénité, ce calme, c'est le signe qu'on sent quelque chose de puissant. C'est pour ça qu'en hébreu, le mot qui veut dire muet, silencieux, ilem, c'est les mêmes lettres que alim, qui veut dire fort. Donc, c'est l'humilité par essence. Et pour compléter, on avait regardé une Mishnah qui dit que depuis que Rabbi, un très grand maître qui a écrit toutes les Mishnayot, toute la Mishnah, depuis que Rabbi est mort, on ne trouve plus l'humilité et la crainte du péché. La crainte du péché à comprendre dans deux sens, d'après notre tradition mystique. Il y a la crainte du péché lorsqu'on voit les œuvres de Dieu, les montagnes, les océans, on se dit « Waouh, quelle force, qu'est-ce qui peut m'arriver ?» À la limite, c'est la crainte du châtiment. Et cette crainte du châtiment, c'est la crainte inférieure. Et la crainte supérieure, c'est ce qu'on appelle la crainte honte. C'est-à-dire la honte de ne pas être à la hauteur, de ne pas être dans le meilleur de nous-mêmes. C'est ça, la crainte supérieure. Alors, on nous dit que depuis que Rabbi est mort, il n'y a plus dans le monde d'humilité et de crainte du péché. Et puis Rav Yosef se lève et dit « Mais non, ne dis pas que l'humilité est disparue parce qu'il y a moi. » Ça paraît une contradiction, n'est-ce pas? Un homme humble qui revendique son humilité. En fait, on explique que l'humilité, c'est pas raser les murs. Humilité, ça vient d'un mot latin « humilis » qui vient de « humus ». L'humus, c'était la terre chez les Romains. Pour eux, l'humble, il se confond avec la terre. Il fait du rasmot, comme nous on dit « raser les murs ». Non, c'est pas ça. Rav Yosef savait qu'il était humble, mais il restait quand même humble tout en le sachant parce qu'il se disait qu'un autre à sa place, avec les dons qu'il avait, aurait été encore plus humble si ça se trouve. Et donc, il a simplement voulu corriger une erreur. Il se savait humble, il lui a dit « Ne dis pas que l'humilité a disparu parce qu'il y a moi ». Et en face de lui, il y a Rav Nachman qui dit « Ne dis pas que la crainte du péché a disparu parce qu'il y a moi ». Alors pourquoi Rav Nachman n'a pas évoqué la qualité de son confrère Rav Yosef, en l'occurrence l'humilité? Pourquoi Rav Yosef n'a pas évoqué la qualité de son confrère, en l'occurrence Rav Nachman, c'est-à-dire la crainte du péché? Alors on répond comme ça. Rav Nachman disait, Rav Yosef a aussi la crainte du péché. Et donc quand on a la crainte du péché, c'est un effet boomerang, on ne peut pas rester humble, c'est pas possible, c'est trop dur. Et donc il n'est pas humble. Mais en fait, c'est pas que Rav Yosef était orgueilleux, mais il se disait, il est humble parce qu'il ignore sa qualité de crainte du péché. En effet, la crainte du péché, elle vient du fait que Rav Yosef était très haut dans la Torah, il avait beaucoup étudié. Mais tant qu'il était érudit, il pouvait rester humble en se disant « Un autre, avec mon intelligence, il aurait compris encore mieux, il se serait acharné encore mieux. » Mais la crainte du péché vient du travail qu'on a fait, plus que des dons. Le travail qu'on a fait à travers ses dons, certes, mais ce travail-là, cette peine qu'on s'est donnée, comme disent les cyclistes, souffrir en course, qui change l'homme intérieurement au point qu'il ait cette crainte du péché, cette crainte élevée dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là, on ne peut plus rester humble. Ce n'est pas possible à un tel niveau. Il y a un effet boomerang. On perd un peu de son utilité, de son humilité, pardon. Et Rav Yosef, lui, selon Rav Nachman, Rav Yosef se croyait humble parce qu'il n'était pas au courant de cette très grande qualité qu'il avait. Donc il était humble par ignorance. Et Rav Yosef, lui, pensait que non, il n'avait pas cette qualité. Il n'était pas changé intérieurement. Il pensait que la Torah qu'il avait étudiée formait comme une espèce de bouclier, de réflexe éducationnel, on va dire. Il s'était auto-éduqué. Il avait acquis des réflexes, mais il n'était pas changé intérieurement. Donc c'était simplement la Torah qu'il connaissait, la Torah qu'il avait étudiée, qui le protégeait du péché. Et à propos de cette Torah, pensait-il, il pouvait rester humble parce qu'il se disait « Un autre, avec mon intelligence et ma mémoire, eh bien, il aurait encore plus de Torah, encore plus d'érudition, et il serait encore plus, peut-être, protégé du péché. » Donc là, on a, n'est-ce pas, comment dire, une différence fondamentale entre Rav Yosef et Rav Nachman. Rav Nachman pense que l'homme peut être changé intrinsèquement. C'est ça la crainte du péché. Rav Yosef pense que non, c'est simplement des réflexes, une nature acquise, n'est-ce pas? Comme on dit, l'habitude est une seconde nature et elle vient par l'étude de la Torah. Beth Haim, le psychanalyste, parlait une fois de ça. Il disait qu'il y avait des gens qui étaient très élevés dans leur comportement moral, mais dans les camps de concentration, ils ont volé du pain. Ça veut dire que leur élévation, elle était due à une éducation, des réflexes qu'ils avaient acquis, mais ce n'était pas forcément que leur tissu humain était changé en tant que tel. Et d'ailleurs, ça explique une discussion qui peut paraître triviale entre Rav Nachman et Rav Yosef, mais comme le dit Lévinas, derrière les discussions banales ou triviales des sages, il y a des symboles. En l'occurrence, on n'a pas le droit de lire le schéma devant un pot d'urine. Et là, il y a une discussion. Rav Yosef dit s'il y a beaucoup d'eau, mais beaucoup, et que l'urine vient ensuite, on peut lire le schéma. Pourquoi ? Parce que l'eau, c'est la Torah. Et donc l'eau, comme elle ne change pas l'endroit, elle ne change pas l'homme, il en faut beaucoup, beaucoup en quantité pour s'opposer à l'urine qui symbolise le mal. Et Rav Nachman, il dit non, même s'il y a un peu d'eau, l'urine s'annule au fur et à mesure, elle est considérée comme annulée dans l'eau. Pourquoi ? Parce que l'eau, elle acquiert l'endroit, elle change l'homme. Et donc ici, l'eau, c'est le symbole de la Torah, et l'urine, c'est le symbole du mal. Maintenant, on a compris pourquoi Rav Nachman ne dit pas que Rav Yosef est humble. Mais, à l'inverse, Rav Nachman se targue d'avoir la crainte du péché. Pourquoi Rav Yosef ne le cite pas, il ne cite pas son collègue comme ayant la crainte du péché ? Parce qu'il pensait justement que Rav Nachman n'était pas changé intérieurement, qu'il n'avait pas une réelle crainte du péché, qu'il était protégé par des garde-fous. En effet, le Talmud nous dit que des devins avaient dit à sa mère qu'il allait mal tourner. Et pour le protéger de ça, on lui avait dit « couvre-lui la tête, qui sente la présence divine toujours au-dessus de sa tête, c'est un symbole, le couvre-chef, et prie sans arrêt ». Et donc il était protégé par la prière, par le couvre-chef, ce sont des paravents. Mais lui-même, intrinsèquement, il n'était pas changé. C'est pour ça que Rav Yosef n'a pas dit que la crainte du péché après la mort de Rabbi subsistait encore en la personne de Rav Nachman. Mais Rav Nachman, qui pense qu'une fois qu'on a la crainte du péché, on ne peut plus être humble, comment a-t-il pu dire, comment a-t-il pu accepter, pardon, qu'on enseigne, et il ne s'est pas révolté contre ça, comment a-t-il pu accepter qu'on enseigne que Rabbi avait les deux, la crainte du péché et l'humilité ? C'est parce qu'il considérait que l'humilité de Rabbi n'était pas une humilité par calcul. Un, j'ai des dons naturels. Deux, un autre les aurait développés plus que moi s'il avait été à ma place, s'il avait eu mes chances. C'était une humilité par essence. La même humilité qui permettait à Moshe de rester humble, n'est-ce pas ? Une absence d'ego qui permettait à Moshe de rester humble même en étant prophète. Parce que dans la prophétie, comme on l'a dit, on n'a pas la ressource de se dire « j'ai reçu du ciel et un autre aurait fait mieux que moi avec ça ». Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut développer, la prophétie. Tel que ça tombe du ciel, ça tombe. Alors comment Moshe pouvait encore rester humble ? C'est la fameuse humilité par essence, celle qu'on a chez Dieu, l'absence d'ego. Ce que j'ai dit tout à l'heure, après la musique, le silence qui se dépose, n'est-ce pas ? C'est ça l'humilité par essence, dans le sens que on n'a pas d'ego. On n'a pas envie de parler de soi. On n'a même pas envie de parler, d'ailleurs. Et Rabbi pouvait être à la fois humble et craindre le péché. Pourquoi ? Parce que, justement, son humilité, ce n'était pas une humilité par calcul constant, un autre aurait fait mieux que moi, etc. C'était l'humilité par essence. Et Rabbi Nachman de Breslav, rien à voir avec le Rav Nachman du traité talmudique, parce que lui, il a vécu, n'est-ce pas, au XVIIIe siècle, Rabbi Nachman de Breslav nous dit que cette humilité par essence, on la trouve dans le symbole de l'étoile de David. Vous avez deux triangles, vous voulez figurer, un avec la pointe en bas, c'est dans le drapeau d'Israël d'ailleurs, un avec la pointe en bas et l'autre avec la pointe en haut. Le triangle avec la pointe en bas, vous avez une pointe. La pointe, c'est zéro, c'est rien, c'est l'homme quand il débute son travail sur lui-même. Ensuite, il y a deux lignes qui s'écartent, ses horizons s'élargissent. Et ensuite, il arrive à une ligne horizontale. Ça, c'est le résultat auquel il arrive de tous ses efforts. C'est l'alpiniste qui plante son drapeau au sommet du Mont Blanc. Et on lui dit, attention, ne reste pas là, ne te repose pas sur ses lauriers. La base à laquelle tu es arrivé, prends-la comme un tremplin pour un nouveau départ. Alors cette ligne horizontale, elle passe en bas. Et ça devient la base du deuxième triangle, celui qui va avoir sa pointe vers le haut. Et là, à partir de ce trait horizontal qui est en bas, qui est donc le nouveau tremplin, la deuxième étape, on va vers un point. Mais ce point, ce n'est pas l'homme qui est zéro, c'est le point de l'infini, à peine perceptible. C'est l'homme qui est devant Dieu. Et c'est vrai que quand il est devant Dieu, il n'a plus d'ego. Face à l'infini, on n'a plus d'ego. C'est la raison pour laquelle, nous disent nos sages, tous les grands tzadikim, Moshe, Yaakov, quand ils demandaient quelque chose à Dieu, ils auraient pu mettre en avant leur mérite. « Donne-moi parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ça. » Mais jamais, jamais, jamais. Ils demandaient toujours à titre de don gratuit. Parce que on trouve mesquin, on trouve petit, n'est-ce pas ? Quand on est face à l'infini, de se mettre en avant, de dire « Voilà, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. » Quand on n'a plus d'ego, on demande toujours à titre de don gratuit parce que face à l'infini, on ne se sent rien. Et il faut être très grand, en quelque sorte, pour se sentir rien. Voilà, j'ai essayé de vous résumer un petit peu rapidement tout le cours, n'est-ce pas, d'hier soir. Il y aurait encore beaucoup à dire. Je vous souhaite Shabbat Shalom. Et jeudi qui vient, De nouveau, je ferai court sur Zoom. Hier, il y a eu des bugs informatiques sur Zoom qui m'ont un peu troublé, n'est-ce pas? Ma parole peut-être n'était pas aussi fluide que d'habitude parce que je pensais à tous les gens qui n'ont pas pu entrer au départ. Il n'y en a pas eu tellement, mais il y en a eu quand même. Des histoires de mots de passe et autres. On a beaucoup travaillé là-dessus avec le technicien. On a beaucoup arrangé. On s'est beaucoup rendu compte de pas mal de choses. Et normalement, ce jeudi, avec l'aide du Tout-Puissant, il n'y aura vraiment aucun problème. Donc ce jeudi, je donnerai cours à 20h30 sur la prochaine paracha, la prochaine section hebdomadaire de la Torah qui s'appelle Shelach Lecha. Shabbat Shalom à tous.